Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oui, à titre personnel, c'est ma première victoire. C'est vrai que les trois victoires que j'ai effectuées avant, se sont résumées que par des défaites.
Aujourd'hui, ça paye ses fruits.
Et à l'inverse de ça, ce qui arrive souvent dans le football, c'est que l'équipe qui a 10, elle se sent montée des ailes.
Va falloir dégonfler un peu les têtes.
Si je puisse faire 10 ans ici, ça serait magnifique.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h, vous êtes sur RMC, deuxième heure de l'After Foot. On vous rappelle qu'il y a eu la 34e journée de Ligue 1, que le match entre Bastia et Le Mans a été définitivement arrêté. Les Manceaux menaient 2-0. Donc, Le Mans se dirige vers la Ligue 1, mais officiellement, ils ne sont pas encore en Ligue 1, parce qu'il faut évidemment que ce score soit entériné. Donc, c'est complètement lunaire. On était dans les arrêts de jeu au moment où le match a été arrêté suite à des fumigènes lancés sur la pelouse. Red Star Rodez, ça sera en barrage mardi. Vendredi, les Verts joueront leur barrage face au vainqueur du Red Star Rodez, parce que Saint-Etienne a gagné 5-0, mais ça n'a pas suffi vu la victoire du Mans. On rappelle que Bastia est relégué en national, tout comme Amiens. Un petit mot, tu voulais en parler également, Walid, c'est qu'effectivement donc Dijon retrouve la Ligue 2.
Dijon, nos amis dijonnais, qui retrouvent
3 ans après l'avoir quitté
la Ligue 2, et avec une saison incroyable aussi en national, où ils ont fait ils n'ont pas fait cavalier seul toute la saison, parce que Rouen était leader pendant une grande partie, mais ils ont réussi à être très très solides et ils l'ont acquis ce soir. Donc bravo Dijonais.
Ouais, Sochaux y est presque également, et du côté de Saint-Brieuc par contre c'est la relégation. Donc il y a énormément effectivement d'enseignements aujourd'hui à tirer, et de clubs qu'on connaît bien qui vont retrouver.
La troisième place se jouera barragiste avec Fleury, Mérogis, Versailles et Rouen.
Exactement, ouais, a priori.
On est un peu chaude.
Et on rappelle donc qu'en Ligue 2, il y avait déjà Troyes qui avait acté son retour dans l'élite depuis quelques semaines et qui était donc sacré champion de Ligue 2. On parlait de Marseille, messieurs, parce qu'on le rappelle, il y a eu un énième rebondissement avec Aubameyang qui a été écarté. Ce déplacement demain face au Havre. Quand on voit ce qui s'est passé face à Nantes, où là c'était vraiment un renoncement des Marseillais, la victoire logique des Nantais, on a l'impression que demain, en fait, ça dépend que des Havrais, non? Parce que là, les Marseillais, ils ont abandonné.
Bah, c'est le sentiment qu'ils nous ont donné contre Nantes, et on n'a pas l'impression, vu les échos qu'il y a, que ça a bien bossé cette semaine. Au contraire. Donc oui, moi je suis très très inquiet, mais bon, ça fait quand même un moment. Moi, depuis le match contre Lorient, je me suis fait une raison sur la fin de saison de l'Olympique de Marseille. Il y avait eu un espoir avec la première heure de jeu contre Nice, qui était plutôt intéressante dans l'état d'esprit et dans ce qu'avait mis en place Habib Bey, mais ils sont tombés dans leur travers contre Nantes, alors qu'en plus Lille avait fait match nul contre le Havre un jour après. Donc ouais, moi je suis très très inquiet, et je le disais tout à l'heure, hein, le Havre va tout faire pour donner une très très belle soirée à ses supporters, avec possiblement aussi la dernière de Digard, à voir l'avenir de Mathieu Bodmer aussi, qui est en suspens par rapport au nouveau repreneur.
Quand tu parles de la dernière de Digard, c'est quoi? C'est qu'il serait pisté par d'autres clubs de Ligue 1, l'étranger?
Non, moi je pense que si je dois mettre une pièce sur la suite au Havre, moi je pense que c'est une fin de cycle. Je pense que s'il y a maintien là, ils pourront pas faire plus, et surtout avec Blue Crown qui est arrivé en multipropriété, avec de la multipropriété en cours de saison. Je suis pas sûr que ça continue. Donc ça pourrait être une très très belle fin d'aller chercher une victoire ou un résultat positif contre Marseille pour aller chercher le maintien. Mais du côté de Marseille, aujourd'hui ils ont aucune marge. Ils ont une marge avec aucune équipe de Ligue 1. On l'a bien vu contre Nantes la semaine dernière.
Mais t'imagines qu'on parle de l'Olympique de Marseille.
Et puis le comportement. En plus, de toute façon, à chaque match c'est face ou pile. Ouais. Et en ce moment c'est plus pile que face. Ouais. Hein, c'est souvent t'as, au bout de 10 minutes, t'as compris que les joueurs étaient complètement dépassés. De toute façon, ils sont dans une match finale avée depuis un mois et demi. Et là, il y a du KDR, il y a du détachant, partout dans tous les secteurs, c'est très compliqué.
Non, mais en tout cas, la morale de cette histoire, c'est vraiment que, voilà, je pense que l'Olympique de Marseille, elle a besoin vraiment de repartir sur un cycle stable de plusieurs années, parce que c'est vrai qu'on a parlé souvent des cycles avec Longoria et Benassia, ça a été tout son inverse là depuis quelques années. Il faut vraiment une stratégie claire et cohérente, et surtout, à mon avis, voilà, il faut absolument besoin de changer la direction sportive, la direction en règle générale, parce que c'est vrai
ils vont tous partir.
Donc, ouais, mais c'est peut-être pas plus mal, parce qu'honnêtement, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on parle d'une vieille série B là, d'Europe, et on parle quand même de l'Olympique
mais
de Marseille.
Parce,
un club
parce que l'histoire de la direction, etc., oui, ils ont fait des erreurs pour moi dans la communication.
Non, ils ont fait trop d'erreurs.
Ils ont fait des erreurs, mais moi, ouais. Je suis persuadé que s'ils restaient l'année prochaine, c'est-à-dire que si le projet à 3, Longoria, Benatia et De Zerbi avait pas explosé en plein vol, tu fais jamais cette fin de saison. Ah, moi, pour moi, tu fais cette fin de saison parce que tu sais que Benatia part, parce que tu sais que De Zerbi, pour beaucoup de joueurs sont arrivés pour De Zerbi. C'est en fait toutes ces péripéties qui font que.
C'est un enchaînement de mauvaises décisions.
S'il y avait eu la stabilité, malgré leurs défauts, malgré leurs erreurs, parce que quand tu es directeur sportif ou quand tu es coach, bien évidemment, moi j'ai critiqué De Zerbi, j'ai critiqué Benatia sur pas mal de choses, mais je pense que ces mecs-là étaient compétents, sauf que la gestion émotionnelle les a dépassés et ils ont fait trop d'erreurs là-dessus. Mais c'est surtout le signal, en fait, il n'y a plus de direction. Quand tu dis la direction, c'est qu'il n'y avait surtout plus de direction, ou en tout cas une direction. Direction donnée, ou en tout cas une direction donnée, sauf que eux, soit n'étaient plus là, soit ils ont envoyé le signal que cette direction-là se ferait sans eux dans les prochains mois.
Les signaux ont été mauvais depuis le début.
C'est ça aujourd'hui la réalité.
Je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes un petit peu historiquement, et c'est vrai que la première sortie de Mehdi Benatia après la défaite au club de Bruges, qui les prive d'une qualification en Champions League pour le tour suivant, en fait, elle est déjà catastrophique. À un moment donné où t'as peut-être besoin justement de leader un petit peu pour calmer la situation, et c'est vrai que Mehdi sort avec cette phrase, voilà, et je comprends le fond de sa pensée. Elle est juste d'ailleurs, parce que la défaite à Bruges, où est-ce qu'on pensait que ça allait être un match facile, c'était tout l'inverse. Maintenant, aujourd'hui, t'as besoin justement de. En fait, t'as besoin d'une communication qui est l'opposé de ce que Mehdi Benatia a fait cette année. Tu vois,
les joueurs ont été allumés plein de fois.
Exactement.
Trop de fois.
Et je pense qu'en fait, là, il a le contre-coup justement de sa communication. Parce que, je le répète une dernière fois, je réitère mon propos, mais je pense que dans le fond, il a raison. Après, c'est la forme et surtout le timing. T'as l'Olympique de Marseille où t'as besoin justement un petit peu de stabilité, un peu de calme. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Walid. Je pense que si De Zerbi était resté, en tout cas, on n'aurait pas eu cette fin de saison.
C'est surtout la réponse, en fait, Karine. Parce que moi, je pense que je suis d'accord avec Maxime. Dans le fond, quand il sort contre Bruges, il y a une honte intersidérale ce soir-là. Tu dois, à un moment donné, parler.
Maintenant, il n'y a rien de trop grave.
C'est la réaction en fait des joueurs derrière. Et à partir du moment où, en fait, moi, je pense que Mehdi Benatia a connu des très très grands clubs, des très très grands vestiaires qui se responsabilisaient énormément. La Roma, le Bayern, la Juventus. Sauf qu'aujourd'hui, il a construit une équipe composée de dauphins. De mecs très sympas, de mecs très très gentils, qui n'ont pas cette âme-là.
Cet ADN.
Et après, à partir du moment où les messages ne passent plus, en fait, tu dois t'adapter à qui tu as en face. Ouais. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est surtout l'entêtement, en fait, de continuer à le faire, surtout que.
Mais au plus il les allumait, au moins ça marchait.
Exactement. Ouais. Parce qu'à partir du moment où, en fait, ils t'envoient le signal que eux, même si tu penses qu'à l'entraînement ça bosse bien, etc., à chaque fois qu'ils sont en match, ce discours-là ne passe plus. À un moment donné, faut aussi peut-être changer de braquet. Sauf que lui était peut-être dans une idée, non, c'est pas normal, je suis dans la surexigence. Sauf qu'avec certains joueurs, même beaucoup, beaucoup de joueurs de la nouvelle génération, en tout cas,
La génération, Walid, enfin, on parle de Hochberg, on parle de.
Quand je dis la nouvelle génération, c'est au global.
De toute façon, personne n'a envie de se faire allumer par son dirigeant devant tout le monde. Pas à ce point-là, là, ça a été continuellement depuis même l'an dernier.
Mais peut-être parce que aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, il y a une échelle de responsabilité. Et les joueurs, quand tu as donné des salaires exorbitants avec de gros statuts et que les mecs ne répondent pas présents dans des matchs, là, on ne parle pas de. Tu joues pas le Brésil 70 ou le Barça 2011. Là, tu parles de matchs contre l'Orient, des matchs contre Nantes. Il y a de quoi aussi s'arracher la tête. Maintenant, est-ce que dans la communication, aujourd'hui, dans le football actuel, tu peux sortir de cette manière alors que c'est eux tes produits et c'est eux qui vont, entre guillemets, à la fin de saison, déterminer ton classement?
Tu m'enlèveras pas l'idée, Walid, que l'effectif, pour moi, il a été mal construit depuis le début.
Moi, je pense qu'il est construit quand même pour faire un top 3 facile en Ligue 1.
La preuve, ils y sont pas.
Ça, c'est autre chose.
Parce que c'est très facile d'avoir un groupe qui vit bien quand les résultats suivent. Et justement, c'est dans ce genre de situation que tu es en train de voir à quel point ton effectif il a été bien construit. Et finalement, tu as donné le leadership à des joueurs qui ne sont pas en mesure de pouvoir le tenir.
C'est autre chose.
Et je ne parle même pas d'un point de vue sportif.
Mais en parce début que de saison, tu voyais l'OM dans les trois premiers.
Je voyais l'OM dans les trois premiers, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à un moment donné.
Être hors Europe.
C'est beaucoup trop gros pour ce que c'est.
Bien sûr, je pense que personne n'avait prédit que l'OM terminerait 7e. Je leur souhaite qu'ils gagnent contre le Havre pour pouvoir justement essayer de remonter un petit peu au classement. mais c'est vrai qu'encore il y a quelques semaines, avec l'arrivée d'Habib Bey, je pensais absolument pas que l'OM terminerait septième. D'ailleurs, je me rappelle qu'Habib Bey le disait très justement, je suis arrivé, l'OM était quatrième, nous sommes actuellement troisième. Puis derrière, il y a eu la sortie encore lunaire de Mehdi Benassia qui a fait que empirer la situation vis-à-vis des joueurs. Mais quand tu regardes un petit peu l'effectif, les joueurs qui ont été cherchés, et on parle de soi-disant des leaders. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de ce que vient de faire Aubameyang à l'extincteur, quand on parle d'Hochberg, parce que tu sais, il y a une raison, hein, si Medina va parler, et c'est pas Hochberg qui va se mouiller. Hein. Le mec, il a compris d'entrée que l'Olympique de Marseille, il a plus envie de se mouiller. On m'a parlé d'un Benjamin Pavard, on a parlé d'un Balerdi. C'est-à-dire, à un moment, je pense qu'il faut respecter l'OL,
il faut respecter
l'institution.
La valeur des joueurs, la valeur intrinsèque des joueurs.
Non, j'en parle pas. C'est des mecs qui ont des belles carrières.
Si en début de saison, on m'avait dit que l'OL allait faire 3e et que l'OM 7e, j'aurais pas cru une seconde par rapport.
Je pense qu'on est beaucoup.
Par contre, là, moi, je suis d'accord, c'est que c'est vrai que Mehdi Benatia a mis beaucoup de responsabilités sur
certains joueurs qui ne se identifient pas et qui l'ont trahi.
Mais Medina, il a encore rien prouvé à l'OM.
Mais bien sûr, mais moi, je suis le premier à dire que Medina.
Sa prise de parole, elle n'est pas forcément légitime. Il vient de Lens, il arrive, il est blessé et il a fait combien de très bons matchs.
Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
S'il y a une prise de parole,
c'est même le moins mauvais là récemment.
Non, d'accord. Au moment où il parle, si Aubameyang qui parle, t'es pas surpris non plus.
Non, Medina, il a rien à faire à l'OM. Medina, c'est un joueur moyen de Ligue 1 pour moi en tout cas il est bien meilleur que Medina.
Moi je pense que dans une meilleure utilisation sur
l'idée était bonne de le prendre,
bonne sur tous les joueurs. Alors pour moi Medina c'est pas un mauvais joueur, je suis pas convaincu que c'est un plus pour l'Olympique de Marseille.
Mais tu prenais pas Pavard au début de saison, tu prenais pas, non mais t'as eu raison, mais tu prends pas Medina, Højbjerg tu prends pas,
je prends des joueurs comme je te l'avais dit un peu plus tôt, des joueurs un peu plus jeunes, des joueurs qui ont envie de se battre pour l'Olympique de Marseille, des joueurs qui rentrent dans un cycle de 2 ou 3 ans pour l'Olympique de Marseille.
Mais t'as fait tous les problèmes de 3 ans.
Et c'est pour ça que je te parle d'une direction qui doit absolument changer la manière de penser. C'est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir des joueurs qui s'identifient à l'Olympique de Marseille. Parce que la situation.
Mais il n'y a plus de joueurs qui s'identifient à des clubs. On est en 2026.
Mais comment ça, il y a des joueurs comme au Paris Saint-Germain qui s'identifient à des clubs.
Mais parce qu'aujourd'hui, ils gagnent au PSG.
Mais c'est la même chose. L'Olympique de Marseille, ils sont pas en mesure de gagner.
Il est arrivé, il ne rêvait pas de jouer au PSG. Aujourd'hui, il est heureux de jouer au PSG. Il s'éclate dans cette équipe.
Excusez-moi.
Ça fait 7 ans qu'il est là. Est-ce que
c'est une erreur, Balerdi, tu le sais depuis longtemps qu'il n'avait pas leur marchande, il fallait le dégager depuis le début.
Donc en fait, c'est antinomique, il y a un manque de cohérence, Maxime, c'est que tu dis que Balerdi, il fallait le sortir très très rapidement à l'Olympique de Marseille, mais tu demandes du temps à des jeunes joueurs.
Mais des joueurs qui sont en mesure de pouvoir tenir le blason de l'Olympique de Marseille.
Oui, mais ça existe aujourd'hui ?
Bien sûr que ça existe.
Je vais donner un exemple. L'année d'avant, parce que pour moi, il y a eu 2 projets Benatia. Le projet jeune joueur, valeur marchande, Ismaël Koné, Eli Wahi, Lilian Brassier, et j'en passe. Je ne les ai pas tous, mais je pense que les auditeurs qui nous écoutent vont s'en rappeler. Et derrière, tu as eu un autre Mehdi Benatia cette année, l'année 2 pour essayer d'aller chercher un titre, ou essayer d'aller chercher une grosse saison où tu sais le PSG, les joueurs d'expérience. Naïef Aguerd, 29 ans, Benjamin Pavard, 29 ans, Aubameyang, le retour, etc. On a eu deux versions. Moi, je pense qu'il aurait dû continue dans cette idée de jeune joueur l'année d'avant.
Sauf
qu'il y a un moment aussi où il y a deux herbies. Quand Ismaël Koné, au bout de 3 mois, il fait pas contrôle passe ou qu'il a du mal à incarner son football, ils veulent dégager. Que Lilian Brassier, quand il fait trois semaines ou trois mois,
on lui dit tu retournes à Rennes.
Où il est catastrophique contre Auxerre ou contre Nice, il retourne à Rennes parce que tu as un deux herbies qui est pas content de son transfert. Donc en fait, il y a tout ça aussi à prendre en compte par rapport à l'idée du coach, par rapport au temps, par rapport au contexte.
C'est une direction qui est pas en symbiose.
Par rapport au contexte marseillais, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il a essayé les deux. Et au final,
les deux n'ont pas marché. On est d'accord.
Mais si tu regardes bien, ces joueurs là qu'il avait acheté n'ont pas fonctionné.
Ouais, c'est pour ça que je te parle. Il faut une symbiose entre le directeur sportif, entre l'entraîneur, garder un cycle de 2 ou 3 ans, comme ce qui avait été annoncé à la base. Hein.
Mais le cycle de 2 ou 3 ans, est-ce que médiatiquement,
non, ils l'ont pas fait. Tous les ans, ils dégagent des joueurs.
Mais parce que c'est leur idée. Leur idée, c'est de changer
le cycle. Donc ils n'ont pas fait le cycle tous les ans.
Le cycle, c'est Longoria, Benatia, Deserbi. C'était le trio.
C'est pas eux qui sont sur le terrain.
Non, là où t'as raison. Là où tu as raison, c'est que pour moi, ils ont pété les plombs tout seuls.
Trop vite, il y a manqué de stabilité, on les voit trop beaux.
Faut qu'ils titillent le PSG, qu'ils soient deuxième, faut qu'ils aillent top 24.
Et finalement, deuxième ou troisième de Ligue 1, on signe aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille.
Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils sont tellement tués par cette pression qu'ils se sont mis aussi peut-être tout seuls ou médiatique, parce qu'elle existe. Moi, j'assume. Moi, sur l'Olympique de Marseille, je suis beaucoup plus exigeant.
Quand je suis
ramène deux Zerbi, quand Benatia me ramène des joueurs à 400, 500 000, etc., oui. Et ben, je suis beaucoup plus exigeant.
Bien
peut-être
sûr.
Qu'ils se sont mis cette pression tout seuls, ils ont pété les plombs, et au final, toutes ces péripéties-là qu'on a évoquées tout à l'heure t'amènent en fait à une septième place.
Bien
et
sûr,
au final, la troisième place, au final, la troisième place, une deuxième saison en Ligue des Champions, bah, tout le monde l'aurait pris, peut-être au rabais, mais tu aurais continué ton projet. Sauf que, aujourd'hui, tout le contexte marseillais, joueurs, entraîneurs, direction, en fait, explose.
C'est pour ça que je te dis qu'il faut, absolument une nouvelle direction. Hein,
parce que moi, pour moi, les supporters, tu les enlèves cette année parce
qu'ils sont gentils.
Très sympa. Mais en fait, toute cette mayonnaise, le fait d'avoir du temps, parce que c'était ce qu'ils voulaient, et ben, ils ont implosé tout. Et encore une fois, attention, l'année d'avant, heureusement que ça se goupille bien sur la fin, hein, parce qu'il y a eu l'histoire d'arbitrage, les tout corruptes et tout, etc.
Donc, ils ont eu très chaud.
Voilà. Donc, il y a tout ça qui font que,
On est d'accord sur l'analyse. C'est-à-dire que quand je te disais un peu plus tôt qu'il faut une nouvelle direction avec symbiose.
Elle va arriver de toute façon.
Je termine,
y a
s'il
plus
te
personne.
Plaît. C'est pour ça qu'il faut une symbiose dans la direction avec un cycle qui va durer vraiment pendant 3 ans. Quand je te parle d'un cycle, c'est pas avoir un cycle d'un président, d'un directeur sportif, d'un entraîneur. C'est un cycle de joueurs. Les joueurs, ils ont besoin de s'identifier au club. Ils ont besoin de savoir qu'ils vont pouvoir évoluer. Ils ont besoin aussi de sentir un petit peu ce qu'est l'Olympique de Marseille. Les joueurs, ils sont là, au bout de 6 mois, au bout d'un an, ils partent. Comment tu veux que le joueur s'identifie au club?
Non, ça, je suis d'accord.
Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où les mecs ne courent plus contre le FC Nantes, c'est quand même scandaleux. On parle de l'Olympique de Marseille parce qu'ils savent tous, tu l'as très bien dit, ils pensent soit à la Coupe du Monde, soit à un transfert. Il y a un problème quelque part. Et le problème quelque part, il vient de la direction, parce que la direction, elle a pété les plombs quand tu l'as dit après Bruges, elle a pété les plombs après la Supercoupe, elle a pété les plombs quand De Zerbi est parti, et tout le projet qui était censé être stable, et finalement, c'est complètement l'inverse. Et aujourd'hui, tu as besoin de retrouver une stabilité.
Tu as besoin d'être constant sur 3 ans.
Ah bah, alors,
ben
excuse-moi.
Parce que l'an dernier était deuxième de Ligue 1. Logiquement, ouais. Tu changes pas tout l'effectif. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait.
Donc, c'est pour ça que je te dis que c'était la direction.
Après, ils ont voulu l'améliorer.
C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle je t'ai dit qu'aujourd'hui, la grosse problématique de l'Olympique de Marseille, c'est la direction. Et si actuellement, sportivement, l'Olympique Marseille est dans cette situation, c'est uniquement parce qu'il y a des choix qui ont été faits, des mauvais choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas normal pour l'Olympique de Marseille d'être 7ème de Ligue 1, c'est tout.
Idir, supporter marseillais, avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir Idir.
Salut tout le monde.
Salut Idir.
Oui, Idir.
Je voulais parler du. Parce que là, je suis super énervé entre les joueurs et je leur dis un message là, tout de suite. Là. Je sais qu'ils disent tout à la radio. Vous êtes vraiment des merdes, voilà, des grosses merdes.
Bon, Idir, voilà. Juste modère tes paroles, tu peux dire vous êtes minable.
Ouais, vous êtes minable. Excusez-moi, parce que je suis super énervé entre les joueurs, parce que ce qu'ils nous ont fait, c'est une honte. C'est un manque de respect pour les supporters qui payent leur abonnement. Il y a 50 000 abonnés à Marseille. Au moins, il faut les respecter. S'ils ne respectent pas Mehdi Benatia, s'ils ne respectent pas la direction, ok, mais les supporters, on les respecte. Ça, c'est le message. Maintenant, moi, je vais vous parler par rapport au projet de l'année prochaine. L'année prochaine, M. Richard qui arrive. Il y a M. Lorenzi qui devrait arriver comme directeur sportif. Et ils vont nommer un nouvel entraîneur. Moi, ce que je demande à mon club, c'est de la stabilité. C'est-à-dire des joueurs qui restent 2 ans ou 3 ans au club. On en a marre que chaque année, les joueurs changent. Voilà, il faut une stabilité dans ce club. Parce que tous les 6 mois, changer de joueur, on ne peut plus.
Dire aussi, à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite. On est les mêmes, moi le premier. Quand Eli Wahi, au bout de 6 mois, est catastrophique et que Neil Maupay lui passe devant et qu'il est plus connecté au reste de l'équipe, à dire Eli Wahi, c'est pas compatible à l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas oublier que. Moi, et là j'enlève les supporters dans le compte.
Mais vous aussi, vous êtes responsable.
Mais moi, je suis responsable. Mais attends, enfin, après, moi, encore une fois, je ne suis pas là pour faire le bonheur de l'Olympique de Marseille. Hein. Et mon boulot, c'est pas d'être en mode oh, super et tout, là,
Attendez, pas tous en même temps.
Non, mais moi, Idir, je suis là pour dire ce que je pense. Et encore une fois, je pense que toi, quand Eli Wahi est arrivé, je sais pas si t'as fait partie de ceux qui ont sifflé Eli Wahi dès le premier match contre Reims, mais il y avait beaucoup de critiques aussi sur Eli Wahi. Au bout de 2-3 mois, on a bien compris que la greffe, elle prenait pas. Donc, oui, les dirigeants doivent être beaucoup plus froids que nous. Il y a aucun souci. Mais par contre, ton discours, Idir, en disant tous les joueurs doivent rester 3 ans à l'Olympique de Marseille, on sait que c'est pas possible.
Alors, on laisse répondre Idir, on l'écoute.
Attendez, Jean-Pierre Papin, quand il est arrivé la première année, il a été sifflé. Mentalement, il s'est remis. La deuxième année, il est devenu JPP. Les joueurs doivent être forts mentalement pour jouer. Et des sifflets pour plus en joueur.
Non, mais Idir, alors j'aimerais une question, parce que tu prends l'exemple de Jean-Pierre Papin, il est très vrai. Tu peux prendre l'exemple de Chris Waddell, il a mis du temps à s'adapter.
Didier Deschamps
est parti en prêt à Bordeaux, il est revenu, etc. Mais c'était déjà un autre football, une autre équipe, etc.
Une autre époque.
Mais est-ce que toi, et l'exemple de Wahi, il est parfait. Quand il arrive, il n'a pas réussi. Et finalement, il a été dégagé très vite. Il est parti au premier mercato suivant en Allemagne. Est-ce que tu aurais voulu qu'il reste, même si au début il n'était pas bon, pour lui laisser une année d'adaptation, etc. Dis-nous la vérité, comment tu étais dans cet état d'esprit au moment où il y avait Wahi?
Karine, Wahi, il y avait un problème avec Wahi, c'est son entourage. Il sortait tous les soirs, tout ça.
Non, mais c'est pas la question là que je te pose. Il dit, je te demande, toi, en tant que supporter.
Oui, oui, j'aurais voulu qu'il reste. Parce que, tant ça,
donc, tu voulais que Brassier reste aussi?
Vitinha, tu voulais qu'il reste, Vitinha, par exemple?
Mais non, arrêtez. Vous êtes en train de détourner le débat. Mais arrêtez.
Mais pourquoi? Brassier, c'est pas un mauvais joueur. Je veux dire, Brassier, il aurait pu peut-être avoir la même histoire que Galas. Tu viens de Caen, t'es à Marseille et t'exploses. Non, là, Brassier, il a explosé en vol à Marseille, mais on lui a pas non plus laissé le temps.
C'est impossible d'avoir de la stabilité à l'OM pour vous.
Non, c'est possible. Moi, je suis d'accord avec Maxime. Maintenant, je t'interroge parce qu'il faut. On est là. De toute façon, notre métier, il est facile. On est là. Moi, je le dis souvent. On fait la météo du football. Il pleut. Il fait beau. On est inspecteur des travaux finis. On regarde la maison, la baraque. On dit en fait, la baraque, elle est bien, elle est pas bien. Je m'installe dans le canapé. J'allume la télé. Donc c'est facile. Maintenant, je dis juste que moi, est-ce que quand Vitinha, moi, en fait, sur les erreurs de mercato, à quel moment on estime qu'à l'Olympique de Marseille, c'est une erreur de mercato ou pas?
Si tu lui laisses,
est-ce que tu as la vision sur les mecs si au bout d'un an, ils ne prennent pas le pli, ils sont fait déchirer sur les réseaux sociaux? Abdelli, par exemple. Abdelli, c'est sûrement un bon joueur. Oui. Abdelli, à chaque fois qu'il fait un match, il se fait dézinguer. Oui. Parce qu'il est mauvais. Il y a des sosies, Walid Acherchour, etc. Non, mais parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils regardent les réseaux. Oui. Aujourd'hui, il y a les groupes WhatsApp, les groupes Snapchat, regarde ce qu'il a dit, etc. Les mecs, ils se minent. Les mecs, c'est comme ça, etc. Comment tu fais, toi, Abdelli? Est-ce que tu lui une deuxième chance? Est-ce que tu lui laisses un an et demi?
C'est un débat intéressant.
Vitinha, tu vois tout de suite que c'est une voiture volée, Vitinha. Voilà. Ouais. Très rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'as mis 32 millions d'euros sur Vitinha. Ouais. Tu continues, tu t'entêtes ou tu le sors? C'est quoi? En fait, la question, elle est intéressante.
Je veux la réponse d'Idir et après, Maxime, tu vas répondre. Idir, réponds-moi sur Brassier et l'autre exemple qui a été donné à Abdelli. Parce qu'Abdelli, attends, je finis ma question. Abdelli, si on part du principe par rapport à l'OM d'aujourd'hui, là, au mois de mai, il dégage. C'est exactement ce qui s'est passé sur ces derniers mercato quand un joueur ne répondait pas présent tout de suite. Donc toi, sur Brassier, est-ce que tu voulais qu'il parte à Rennes? Et Abdelli, est-ce que tu veux le garder?
Brassier n'aurait jamais dû venir à l'OM et Wahi n'aurait jamais dû venir à l'OM. Parce que la cellule de recrutement, elle a mal travaillé. Avant de faire venir un joueur à l'OM, il faut étudier son entourage et tout ça pour certains directeurs sportifs de grands clubs européens. Nous, on ne le fait pas, ça, à l'OM.
Mais Di Benassia disait l'inverse. Il disait qu'il observait tout et que c'est comme ça qu'il choisissait les joueurs. Mais tu ne nous as pas répondu, donc Brassier, toi aussi, tu avais un problème avec l'entourage parce qu'il n'y a jamais rien qui est sorti sur Brassier.
Non, Brassier, je l'aurais gardé. Au moins, pour finir la saison avec les joueurs. Voilà, il ne faut pas jouer. Maintenant, il faut arrêter. Déjà, ça ne marche pas. À chaque fois, attention, les joueurs, ça ne marche pas. Il faut une stabilité à l'OM. C'est la stabilité qui fait marcher. Regardez au PSG, ils ont plutôt de moyens, mais ça fait 3 ou 4 ans, tu joues avec la même ici.
Bien sûr, il y a une réalité.
Moi, j'aimais beaucoup le coach. Il y a aussi le coach qui doit faire progresser les éléments. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, moi, un Brassier, quand il arrive, est-ce qu'il est validé par le coach de Zerbi et Benatia?
Moi,
j'avais trouvé tout de suite, très rapidement, que c'était une erreur, parce que pour moi, il n'a pas le jeu cérébral, sans lui faire injure, que de Zerbi mettait en place. Moi, je me rappelle l'été où il arrive, je dis ça va être une grosse erreur. Et ça a été une grosse erreur. Bon, après, j'ai déjà dit beaucoup de conneries aussi.
Oui, mais ils ont été validés, ces gens-là.
Mais de Zerbi doit faire progresser un mec comme Wahi. Il doit faire progresser pas mal de joueurs qui arrivent à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi ça, en fait, la résultante. Pour moi, il y a des erreurs du DS. Il y a eu des erreurs de Mehdi Benatia sur certains profils.
Mais est-ce que
ces profils-là ont été validés par le coach? Est-ce que le coach, quand Brassier rate un match ou deux, est-ce qu'il le met à la CAF? Comment il le gère, le management?
Après, ça fait partie du management. Moi, pour avoir été joueur, je peux te dire qu'il y a un temps d'adaptation. Et à l'Olympique de Marseille, on sait que le temps d'adaptation peut être parfois un peu plus long. Après, pour répondre à ta question, Walid, comment tu t'en sors avec des joueurs où tu sens que c'est une fraude? C'est toujours une histoire de valeur marchande. Si tu sens que tu peux les dégager très rapidement, récupérer ton investissement pour pouvoir les remplacer par un joueur meilleur, donc je dis OK par rapport à ça. Et c'est le cas de Balerdi, par exemple. Moi, Balerdi, pour moi, au bout de 2-3 ans, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est un bon joueur. C'est pas un très bon joueur pour l'Olympique de Marseille. Il est temps de le sortir, à condition, évidemment, qu'avec la valeur marchande que tu as récupérée sur un transfert, tu sois en mesure de pouvoir le remplacer par un joueur qui est meilleur que Balerdi. Ça, c'est mon avis. Mais pour te dire, pour revenir par rapport aux joueurs, moi, je pense qu'il faut leur laisser du temps. Tu es sur un cycle, comme on a parlé de 3 ans, mais ça peut être un peu moins. On sait que dans le football moderne, tout est très rapide. Tu ne peux pas changer continuellement d'effectif chaque année et te retrouver avec une symbiose au sein de l'effectif. Ça n'existe pas. On a le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, tu as besoin justement un peu de stabilité, que ça soit chez l'entraîneur, entraîneur et que ça soit surtout entre les joueurs. Ah, c'est trop important. Ah
ben, en fait, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille.
Donc, t'as aucune équipe qui est en mesure de pouvoir faire deux ou trois saisons avec les mêmes joueurs.
En fait, pour moi, la stabilité, elle a été. Enfin,
la stabilité, c'est pas non plus les 16 joueurs. C'est tu gardes la.
La stabilité pour moi a été trop caricaturale. Ah ouais. Tu vois, par exemple, je me pose la question, moi, quand je vais en début de saison, moi, pour moi, quand tu disais que l'effectif a été mal construit, pour moi, il y a un gros problème au milieu de terrain. Mmh. Mais le milieu de terrain, en fait, c'est le départ de Rongier et le départ de Rabiot pour deux raisons différentes. Ouais. Pour moi, on fait beaucoup de mal à l'Olympique
pour
de Marseille.
Rabiot,
mais voilà.
Bon.
Mais moi, pour moi, le duo, l'un avec l'âme qui est Rongier, qui, on se rappelle, hein, a organisé le milieu de terrain après Lens sur la première saison et qui a fait beaucoup, beaucoup de bien. De Zerbi a dit, c'est mon organisateur. Et c'est ce changement de système-là qui avait fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. Et Rabiot, pour les raisons qu'on connaît, ou en deuxième partie de saison, pour moi c'est le meilleur joueur avec Greenwood de l'Olympique de Marseille. Mais derrière, il y a eu un effet panic buy avec des joueurs qui sont arrivés, notamment Riley, Vermeeren que j'aime beaucoup mais qui n'était pas prêt mentalement, et j'en passe.
Rassure-moi, tu t'enlèves pas Rongier et Rabiot en récupérant Vermeeren derrière. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu une réflexion derrière.
Bah, moi je pense que Vermeeren et Riley sont des panic buy de Adrien Rabiot parce que ils sont obligés de sortir Rabiot en niveau éthique et niveau management par rapport à la fameuse institution qui a pété.
Ils étaient pas du tout obligés.
Non.
Il y a aussi l'histoire que Rabiot voulait pas prolonger.
D'accord,
et tout.
Enfin, il y a cette histoire. Il y a aussi à un moment donné Dezerbi qui a dit qu'il y avait un affront dans le vestiaire de la part d'un joueur et que derrière il pouvait pas se regarder dans une glace. Il y a eu des choses aussi qui ont fait que ils ont voulu sortir Adrien Rabiot. Moi, pour moi, c'est une grosse erreur. Mais factuellement, c'était en tout cas c'est le choix qu'ils ont assumé. Oui. Derrière, il y a eu une escalade de choix, de mauvais choix, panic buy qui font que ton milieu de terrain pour moi est trop déséquilibré. Tu as des 10, t'as des mi-8, mi-10, mi-6. Pour moi, ça avance plus, etc. Ouais, d'accord. Donc moi, ce que je vais expliquer, c'est que quand tu regardes l'effectif, pour moi, par rapport à l'année dernière, normalement, t'as un effectif qui est meilleur. Sauf qu'à la fin de saison, tu te rends compte que est-ce que avec Højbjerg, Rongier, Rabiot, t'avais pas un meilleur milieu de terrain l'année dernière que cette année? Alors, Moi, je pense que oui. Sauf que est-ce que tu le savais un an avant? Donc c'est pas l'histoire c'est pas l'histoire de la stabilité. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a un gros problème à l'Olympique de Marseille, c'est que en fait, tu as des joueurs, s'ils sont très très forts. Il va falloir que tu les vendes parce qu'il faut que tu fasses rentrer de l'oseille.
Mais c'est la réalité du football.
Voilà, c'est la réalité du football. D'accord. Clubs, ceux qui sont pas assez forts, tu dois les sortir parce qu'ils sont pas assez forts par rapport au contexte marseillais. Ouais. Et ceux qui sont entre les deux, donc soit pas trop forts et pas assez forts, en fait, c'est des joueurs assez mides et tu dois les laisser, 3-4-5 ans à l'Olympique de Marseille.
C'est comme dans tous les clubs,
peut-être avoir mieux.
Le Racing Club de Lens va pas sortir tous ses meilleurs joueurs.
Si on vous coupe, Patrick Videra est en direct avec nous sur RMC, l'entraîneur du Mans FC. Bonsoir Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Patrick, on peut vous féliciter, même si c'est pas officiellement entériné, parce qu'on rappelle que ce match a été arrêté alors que vous meniez 2-0, mais on sait a priori que la LFP à un moment va bien acter cette victoire et donc cette montée en Ligue 1. Racontez-nous l'émotion un petit peu à Bastia ce soir avec donc cette deuxième montée consécutive, on le rappelle, National Ligue 2 et donc Ligue 2 Ligue 1.
C'est toujours particulier, beaucoup de fierté aujourd'hui par rapport à mes garçons qui ont fait une saison extraordinaire et je tenais à leur dire merci pour ce qu'ils ont pu faire durant cette saison.
On est avec Patrick Videra, l'entraîneur du Mans SC depuis mai 2024. Walid, a toujours une question.
Félicitations, vous n'êtes pas très bavard sur la première question là. C'est fou, vous êtes en Ligue 1, Le Mans revient en Ligue 1. Vous avez fait un travail exceptionnel. Tout le monde parle de Patrick Videra, le coach à la mode, le nouveau coach. Moi, à chaque fois que vous faites une interview, je lis vos paroles, je bois vos paroles. Donnez-nous un peu à l'after foot là. C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce que ça représente?
Non, vous savez, il faut aussi pouvoir garder beaucoup d'humilité. Parce que ce soir, certes, aujourd'hui, on est monté en Ligue 1, mais aussi, c'est une descente d'un club. Et je pense qu'on va essayer de rentrer très rapidement pour pouvoir le fêter avec nos supporters. Mais ouais, ça a été une saison dure. C'était une saison où je leur avais dit le 30 juin que j'avais simplement une chose dans la tête. Au début, ils m'ont pris pour un fou, mais je leur avais dit simplement une mission, c'était de pouvoir monter en Ligue 1. Après, vous savez, aujourd'hui, Patrick Videra, il n'est pas à la mode aujourd'hui. C'est surtout ses joueurs qui font énormément de travail et qui ont un état d'esprit.
Ah si, vous êtes à la mode en tout cas. Bravo en tout cas pour votre montée. Ce qui est assez paradoxal par rapport à votre situation, c'est aussi les joueurs que vous avez recrutés. C'est vrai que vous avez eu tendance à aller recruter les joueurs quand même à un niveau plus bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un football professionnel où il y a de plus en plus de compétitions, c'est un choix de votre part, c'est un choix de la direction, et j'imagine que c'est aussi un choix financier. Parlez-nous un petit peu justement de l'adaptation de ces garçons en Ligue 2, alors que beaucoup quand même n'ont pas eu la chance justement de pouvoir connaître le monde professionnel avant d'arriver sur cette saison. Est-ce que c'est une manière différente de travailler avec ce genre de joueurs?
Moi, c'est un peu aussi ma façon de travailler depuis peu. Mais c'est vrai que aujourd'hui, aller chercher des garçons de division inférieure, c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui, on leur donne la possibilité de d'avoir une deuxième chance. Mais après, vous l'avez tout dit. C'est aussi une question financière. On sait qu'aujourd'hui, on était impromu et on a des finances qui sont très light entre guillemets, et puis il faut faire avec, mais avec beaucoup de travail, avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de personnalité. Notre objectif, c'est de continuer à les faire grandir et que le club puisse continuer à grandir.
Vous avez douté cette semaine après la balle de match que vous aviez à la maison contre Reims. Moi, j'ai cette image de vous avec un genou à terre, choqué. Je me suis dit oulala, attention là, Bastia la semaine prochaine, ça va pas être évident. Racontez-nous votre semaine un petit peu.
Non, vous avez raison, j'ai mis un genou à terre, mais je me suis relevé très rapidement et je suis arrivé dans le vestiaire où je leur ai dit aux garçons qu'il ne fallait pas avoir de regrets et que ce match nul nous donnait la possibilité d'aller jouer une finale à Bastia. On savait que ça allait être très dur, mais on dépendait que de nous. Donc on a continué à faire une super semaine où il y a eu énormément de sourires, énormément de travail. Comme je leur ai dit aujourd'hui... J'aurais dit, garçon, je vous demande simplement deux choses. C'est de sourire quand vous rentrez sur le terrain et de prendre énormément de plaisir. Parce que pouvoir vivre des soirées comme ça, on est des privilégiés. Et aujourd'hui, ces privilégiés, c'est vous. Et soyez grands, simplement. Donc voilà, ils ont été très grands ce soir.
Patrick Vidéra, l'entraîneur du Mans FC, notre invité. Le Mans qui va retrouver la Ligue 1 16 ans après l'avoir quitté. Bravo Patrick. Un mot, parce que Walid, on a parlé, on sait que vous êtes courtisé. Il y a des clubs de Ligue 1 qui pensent à vous. Il y a des clubs également au Portugal. Est-ce que vous serez bien sur le Mans pour vivre...
Sur le banc ou sur le Mans?
Sur le banc et sur le banc et au Mans.
Parce que sur le Mans, ça peut être dur.
Pour vivre cette aventure en Ligue 1.
Sincèrement, aujourd'hui, l'avenir de Patrick Vidéra, on s'en fout un petit peu. Voilà, ce qui compte, c'est que Le Mans a retrouvé la Ligue 1 16 ans après, sincèrement, j'en parle jamais avec mon agent Pierre Ducrot. C'est lui qui s'occupe de mon avenir aujourd'hui.
Un chic type, Pierre Ducrot. Ah,
vous avez un bon agent.
Ouais, vous avez un bon agent.
C'est un super type. Non, c'est un garçon. On a joué ensemble. On avait 8 ans, donc je suis énormément dans la fidélité. Et puis, je lui fais confiance. Après, c'est à lui de gérer mes intérêts, mais sincèrement, voilà, c'est pas d'actualité ce soir et aujourd'hui, je me suis rendu bravo à ces garçons qui ont fait une saison fantastique.
Bon, Patrick, c'est quoi le programme là? Vous rentrez quand à Au Mans? Quand est-ce que c'est la fête? Parce que nous, on a beaucoup de journalistes qui viennent du Mans, qui sont déjà au Mans, prêts à accueillir les joueurs.
Place de la République, apparemment.
Ouais, vous savez, aujourd'hui, l'organisateur, je vais demander au président, mais sincèrement, voilà, on va essayer de partir de Bastia, de pouvoir prendre l'avion et ensuite atterrir au Mans et de faire la fête avec nos supporters.
Merci beaucoup Patrick Vidéra d'avoir été avec
bravo
nous, l'entraîneur du Mans FC, qui donc permet au club de retrouver l'élite 16 ans après
mythique,
l'avoir quitté.
Mythique.
C'est absolument exceptionnel. Deux montées de suite, on le rappelle, National, Ligue 2 et donc Ligue 1. Bravo à vous. Félicitez évidemment tous vos joueurs et belle soirée à vous et belle fête évidemment avec merci tous les supporters du Mans. Et on embrasse évidemment Pierre Ducrot qui est un copain et qui écoute ouais souvent RMC et donc qui est un super agent en plus. Donc décidément, il a ouais que des qualité, Pierre. Merci, Patrick, d'avoir
été. Merci beaucoup,
été
et puis bonne soirée à vous et encore
merci coach. Fait.
Merci, félicitations, coach. Patrick Vidéra a donc été notre invité pour saluer cette magnifique victoire. On rappelle donc que le match a été définitivement arrêté 2-0 face à Bastia. On attend que la Ligue entérine ce succès, synonyme de montée pour les Manceaux. On retourne en Angleterre. Vous le savez, il y a également du ping-pong ce soir. C'est les Mondiaux par équipe. Franchine, Léna Marjac.
Et malheureusement, c'est terminé. Défaite de l'équipe de France en demi-finale de ces championnats du monde par équipe. Ce sera une médaille de bronze pour nos Français. Ils n'ont pas réussi à renverser cette montagne chinoise ce soir, malgré de très très gros matchs. Ils s'inclinent donc 3 matchs à 1 ce soir, face notamment au numéro 1 mondial. C'est Félix Lebrun qui a subi la loi dans ce dernier match de Wang Shuxin. Et la France donc s'arrête avec une médaille de bronze. Après l'argent en 2024, c'est le bronze en 2026 ici à Londres. Et ça reste très très positif pour cette équipe qui était très très jeune ce soir. Bravo quand même à nos Français. Défaite face à la Chine, 3-1 ce soir.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, évidemment, l'after continue. On va parler du Classico notamment, parce que vous le savez, demain, il y a un Barça-Real après une semaine très agitée du côté des Madrilènes. On en parle, on est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Karine Galli. 23h36, vous êtes sur RMC avec Maxime Chano et Walid Acherchour. On vous le rappelle que Le Mans FC est en folie ce soir. Ils vont retrouver la Ligue 1 et on est avec notre reporter Clément Brossard qui est ingérable, qui est en folie absolue parce qu'évidemment depuis qu'il est tout petit il est supporter du Mans et donc 16 ans après il va revoir son club chéri en Ligue 1. Ça va Clément, t'es redescendu ou pas?
Non, on va pas redescendre comme ça. Salut Karine, salut tout le monde.
Félicitations.
Non, c'est que le début.
T'as embêté
c'est
tout le monde le dans le train. Bah, je te rappelle que tu revenais d'un déplacement à Montpellier et que visiblement tu étais assez au taquet dans le train pour suivre le match.
La question c'est de savoir si tu vas être en forme demain pour commenter le Havre Marseille.
Ah non, il part vraiment pour la fête. Bah,
train à 19h50 pour un coup d'envoi à 20h, donc il fallait que la connexion à SNCF soit bonne. Vous avez la pression à SNCF, je pense. Mais ça s'est bien passé. En effet, le wagon, je crois, est au courant que Le Mans est en Ligue 1. Donc, franchement, c'est merveilleux. Alors, on verra ce soir. En effet, la nuit risque d'être courte parce que là, ça fait Montpellier-Paris, Paris-Le Mans, Le Mans-Le Havre demain. Mais ça va s'annoncer assez sympathique comme lors de la dernière montée. Et j'ai bien entendu Patrick Videra qui n'aura certainement pas la même voix demain matin. Donc ça va être super parce qu'au-delà de la décision complètement loufoque de Rudy Buquet, les joueurs ont célébré dans le vestiaire. Ils attendent qu'une chose, c'est de retourner au Mans. Ils arriveront à 2h à l'aérodrome pour célébrer avec les supporters qui seront là en nombre. Et puis après, faire la même fête qu'ils ont fait l'an dernier pour la montée en Ligue 2.
Raconte-nous, parce que tu as eu certains joueurs au téléphone. Alors nous, on n'arrive pas à avoir de joueurs. On a eu le bonheur d'avoir Patrick Videra parce que ça capte pas très bien au sein de Furiani. Raconte-nous les joueurs que tu as pu avoir au téléphone et ce que vous vous êtes dit après cette soirée magique.
Bah, ce qu'ils m'ont dit, c'est surtout qu'ils voulaient rester sur le terrain et finir le match. Et ils ont mis une bonne pression à Rudy Buquet en disant qu'il restait une minute à jouer, qu'il y avait plus de spectateurs et donc qu'il y avait aucun risque pour eux. Evan Atfou, le gardien numéro 2, qui est titulaire depuis deux matchs après la blessure de Nico Kosic, lui a reçu un petit pétard à côté de l'oreille, mais il a dit c'est pas grave, je continue, même sourd sur la fin du match, je continuerai. Et finalement, le fait d'avoir la nouvelle comme quoi le match était terminé, même si officiellement Le Mans n'est pas encore en Ligue 1, il faut le souligner. Bon, et ça les a pas empêchés de faire la fête puisqu'ils se doutent bien que derrière ce sera une victoire sur tapis vert. L'inverse serait étonnant et donc ils ont célébré dans le vestiaire. Mais c'est vrai que ça a mis un petit coup quand même parce qu'ils ont dû rentrer au vestiaire, qu'ils étaient toujours habillés, prêts à reprendre et que ça a duré de longues minutes. Donc la célébration n'a pas été une célébration classique comme les autres clubs ont l'habitude de le faire.
Effectivement, mais merci Clément d'avoir été avec nous et puis fais bien la fête tout au long de la nuit pour célébrer donc cette remontée en Ligue 1 du Mans FC, 16 ans après et 13 ans après la liquidation judiciaire. Profite de ces beaux moments.
Et on va scruter ta voix surtout demain.
On verra effectivement s'il est
demain,
en forme
aller,
ou pas.
On verra avec Christophe.
Messieurs, un petit mot aussi sur l'actualité par rapport à Grégory Lorenzi. On savait depuis de longues semaines qu'il allait quitter Brest, ça a été officialisé hier. Il devait aller a priori à Nice et puis potentiellement il pourrait y avoir un petit court-circuitage, il pourrait finalement finir à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'il paraît que c'est donc Mehdi Benatia qui va lui partir, qui fait le forcing pour proposer ce nom-là. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, lui qui a fait des miracles à Brest? On rappelle, il a été pendant donc 10 ans hein, le dirigeant et le directeur sportif du club brestois.
Bah, c'est un top profil Ligue 1, c'est un homme de l'ombre. Il a fait des super coups à Brest. Il a récupéré, par exemple, un Ibrahima Diallo qu'il a revendu à Southampton 15 millions d'euros, qu'il a récupéré dans des centres de formation. Voilà, c'est un directeur sportif qui a fait du très très bon boulot à Brest, qui a été sûr de ses choix, sûr de sa vision. Quand il prend Eric Roy, moi, je suis halluciné.
Je me 12 ans sans entraîner et prends Eric.
Un entraîneur qui a pas exercé pendant 12 ans, qui était consultant, et au final ça a été, il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de Brest, voire la plus belle, et il a été très très bon dans ce choix là. Maintenant faut voir encore une fois ce qui va se passer à l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait très bien que le contexte peut être très très compliqué.
Ouais, même exercer
à Brest, exercer à l'Olympique de Marseille, c'est très très différent. Il va peut-être venir en plus avec son frère Yannick. C'est quelqu'un qui n'a pas une communication ultra prononcée.
Ouais, c'est peut-être bien, ça, non ?
Ça peut le servir.
C'est peut-être une bonne chose à l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est un homme de terrain, pas très bavard. Je suis conquis. C'est un bien grand mot, parce qu'il va falloir juger sur pièce. Mmh. Mais je trouve que le profil est très très bon. Maintenant, ouais, le seul petit bémol, enfin, c'est que je trouve quand même l'arrivée un peu tardive, parce qu'on nous parlait de... Je crois qu'il y a une société qui a été...
Tout à fait, qui est chargée de rencontrer les différents profils.
Voilà,
il y a Julien Fournier aussi, par exemple. Lui ne reste que de ça.
Voulu qu'il arrive
peut-être
un peu plus tôt.
Un peu plus tôt. Et puis surtout, en fait, la société, je ne sais pas combien ils vont prendre. Ouais. Mais si c'est pour nous donner Greg Lorenzi à la fin, on aurait pu le faire, nous. Ouais.
Enfin, Julien Fournier aussi, d'ailleurs.
Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne nous ont pas inventé l'eau chaude avec un étranger. Et ce n'est pas une critique. Mais je dis juste que cette vision-là d'avoir un DS français, c'est une bonne chose. Mais d'avoir missionné une société pour nous pondre Greg Lorenzi, qui fait partie des DS les plus réputés sur la place française en ce moment, je trouve ça quand même pas étonnant, mais il fallait pas non plus aller il y avait pas besoin de tout ça, quoi. J'ai surtout l'impression, moi, que McCourt, Sherazade ou même cette société là a essayé de chercher, n'a pas trouvé, et qu'au final on se
d'autant qu'il y a pas mal de directeurs sportifs qui fonctionnent bien quand même en France. Hein.
Voilà.
Je veux dire, tu peux trouver. Tu
on rappelle qu'ils ont eu pas mal de refus aussi,
oui,
d'ailleurs.
Voilà. Oui, je pense.
Attends,
oui.
Je comprends. Ouais. Moi,
je vais donner le nom de cette société, effectivement, parce que tu te dis qu'ils s'en mettent quand même plutôt plein les poches pour qui est pas dingue. Donc c'est Excel Sport Management.
Ouais, voilà, Excel Sport Management. Il aurait fallu Walid Sport Management ou Maxime Chano Sport Management ou même.
T'aurais eu un beau billet.
Ouais, parce que je sais pas combien ils prennent pour ramener Greg Lorenzi, mais c'est fort, hein, c'est fort.
Non, moi je trouve que c'est peut-être le bon timing, justement, d'attendre de terminer cette saison. J'ai un peu peur que s'il était arrivé un peu plus tôt, ça aurait impacté négativement un petit peu son image. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Faut savoir que, on l'a dit un peu plus tôt, mais Lorenzi, ça fait 10 ans. Enfin, il a fait 10 ans à Brest. Il arrive quand c'est en Ligue 2, donc il les fait monter de Ligue 2 en Ligue 1. Et je pense qu'au bout de 8 ans, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et ils sont loin d'être ridicules en Ligue des Champions. Je me rappelle de son interview, justement, où est-ce qu'il avait expliqué un petit peu la manière dont il gérait Brest. Et Walid l'a très justement dit. Moi, j'aime beaucoup sa communication à Lorenzi. Et c'est vrai que ça contraste un petit peu ce que je disais un peu plus tôt avec Mehdi Benassia, qui a tendance à être un petit peu extravagant, entre guillemets, dans la manière dont il prend position à chaque fois par rapport à ses avis. Lorenzi, c'est la discrétion, il est cohérent dans sa communication, il est calme, et peut-être que dans un contexte tellement explosif à l'Olympique de Marseille, je pense que ça peut jouer vraiment en sa faveur. Alors après, entre être directeur sportif de Brest et directeur sportif de l'Olympique de Marseille, c'est deux métiers différents, donc ça, on verra ce que ça va donner. Mais moi, j'aime beaucoup le personnage. Je le disais un peu plus tôt, je trouve que c'est quelqu'un qui est cohérent dans ce qu'il fait.
Et puis surtout dans la situation de l'Olympique de Marseille, Karine, où j'ai l'impression quand même que les robinets vont se fermer. D'avoir quelqu'un qui sait travailler avec peu d'argent, en étant économe, en étant très très fort en négociation, ça peut être un profil idéal pour cette mission-là. Il n'y aura pas le réseau d'anciens joueurs de Mehdi Benatia qui a aussi permis à l'Olympique de Marseille, parce qu'aujourd'hui c'est facile, on tape nous les premiers sur Mehdi Benatia parce que ça se passe très très mal et qu'il a fait des erreurs, mais il a fait aussi des très beaucoup sur le marché des transferts. Ça sera, je pense, un DS très très différent. Mais dans cette situation où il y aura peut-être une dose d'humilité dans le projet olympique de Marseille, je pense que Lorenzi peut être un très bon profil.
Et la transition, elle est vite trouvée. Je me souviens quand ils ont fait leur campagne justement en Ligue des Champions, derrière, les fans avaient un petit peu critiqué justement les décisions de Lorenzi d'avoir un petit peu coupé les vannes, c'est-à-dire la saison qui ont suivi derrière. Il n'avait pas fait énormément de grosses recrues et ça avait un petit peu crié. Et il avait justement justifié un peu cette situation en disant que voilà, Brest devait revenir à sa place, qu'il y avait justement la crise des droits télé, qu'il était intelligent, en tout cas presque primordial pour Brest, justement de pas trop dépenser. Donc c'est vrai que dans le contexte marseillais, comme tu l'as dit, où McCourt va peut-être un petit peu fermer les robinets, peut-être que Lorenzi est l'homme de la situation.
C'est vraiment
sa communication.
Mais alors justement,
c'est tout le choix du coach.
Et ben alors Lorenzi, tu refais le duo Lorenzi-Ricroix.
Non, Eric Roy fatigué, non?
Ouais, compliqué.
Il en rêve.
Oui, il en rêve, mais je pense que là, tu vas le perdre. Là, ouais, là, ouais, faut penser à sa santé mentale, ton physique. Ouais. Non.
Donc, vous ne croyez pas à un possible remake Lorenzi et Eric Roy à Marseille?
Mais non, mais je pense que par contre, on va aller sur du projet français, quoi. Après, c'est pas plus mal, hein, dans une restructuration avec une saison.
Le projet français, c'est quoi alors? C'est Galtier?
Genesio, non?
Je sais pas, mais en tout cas, je me souviens.
Genesio,
ils en parlent.
Genesio, c'est pas la tendance. Ah. C'est, moi, tu me demandes des idées. C'est pas une information. C'est juste que.
Parce que Galtier, il y en a beaucoup qui poussent à Marseille.
Oui, d'accord.
Pour rebondir par rapport à ce que je disais quand je pensais que l'Olympique de Marseille avait justement besoin de joueurs qui s'identifient au projet. Lui-même l'avait dit avec Brest. Hein. Quand il cherche des joueurs, justement, c'est des joueurs qui sont d'accord de jouer à Brest, qui connaissent un petit peu les tenants et les aboutissants. Et je pense que s'il arrivait à transfigurer, en tout cas, à transvaser cette idée à l'Olympique de Marseille, je pense que vraiment ça pourrait être bénéfique pour le club.
Ibrahima Diallo et Fèvre, je l'ai dit tout à l'heure, il les avait récupérés, je crois, à Monaco, à réserve de Monaco. Il en avait tiré 15 millions à Lyon et à Southampton.
Ouais, les deux. Mais bon, Lyon s'était fait un peu pigeonner.
Oui, d'accord. Mais bon, si pour les supporters marseillais, si Lorenzi peut faire des Romain Fèvre tous les étés, je pense que
c'est parfait.
Ce sera pas mal.
Messieurs, dans quelques instants, on va parler du Classico demain. Le Barça peut être sacré alors qu'ils recevront dans le même temps le Real Madrid. Un Real Madrid en crise, on en parle. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h50, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chano et avec Walid Acherchour. Vous pouvez retrouver l'interview de Patrick Videra, le coach du Mans FC qui était sur RMC pour fêter cette montée en Ligue 1. On rappelle, 16 ans après, le Mans retrouve l'élite et ils avaient déjà fait la montée l'an dernier de National en Ligue 2. Et donc là, bravo à eux après un parcours absolument exceptionnel. Une victoire 2-0 face à Bastia. Le match était définitivement arrêté. On attend que la LFP entérine ce score parce que le match a été arrêté dans les arrêts de jeu après des jets de projectiles. Dans le même temps, Saint-Etienne a battu 5-0 Amiens mais devra passer par les barrages. Messieurs, on va parler du Classico. On le rappelle, demain il y a un match entre le Barça et le Real à 21h. Le Barça qui peut être sacré, il suffit soit d'un nul, soit d'une victoire pour être sacré face à leur meilleur ennemi. Arbeloa et le club sont en pleine crise. Il y a eu la bagarre, on le rappelle, à 500 000 euros quand même. Je trouve que c'est quand même assez cher entre Tchouaméni et Valverde. Et Arbeloa était aujourd'hui en conférence de presse. On écoute l'entraîneur espagnol.
Je ne sais pas, je ne travaille pas à la CIA et je n'accuse pas les joueurs. Il y a beaucoup de gens autour du Real Madrid.
Arbeloa a été aussi interrogé sur les tops, parce qu'on l'a vu à Marseille, il y en a beaucoup. Au Real Madrid, on sait tout ce qui se passe aussi. Ouais. Dès qu'il y a des problèmes, ça sort très, très vite. Il a parlé de ses difficultés. Il a dit également qu'il comptait sur Aurélien Tchouaméni. Donc, demain, il sera bien présent sur la pelouse du Camp Nou.
Parce que je trouve ça fou quand même. Que Tchouaméni soit titulaire demain.
Ah ouais?
Bah est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'absents? On rappelle au niveau des absents des stars, hein, juste les stars. Il y a notamment Yamal qui est pas là, il y a Mbappé qui est pas là, il y a Valverde évidemment qui est pas là.
Parce qu'il
a un traumatisme crânien.
Oui, il est pas dans le groupe.
Alors, que... oui, il était pas là. Il est là, selon toi?
Je sais pas.
Ouais. C'est même pas la même saveur, hein. Ouais. Classico comme ça.
Mais est-ce qu'il vous passionne encore ce match? Et est-ce que effectivement, parce que le Real dit, attendez, nous on est costaud, on a mis 500 000, mais effectivement, comme tu le dis, en fait, c'est une amende, mais sportivement, les joueurs n'ont rien.
Enfin, déjà, 500 000 euros, il y a très peu de combattants qui touchent ça aujourd'hui dans
un
des
bon combat.
Ouais, dans des ligues professionnelles, donc déjà c'est un très très beau combat, bien payé pour le Real Madrid. Pour revenir sur ce que je disais, ouais, je trouve ça quand même bizarre parce que sur ce match-là, peut-être une sanction d'un match sur le Classico, parce que Valverde ne pourra pas être là, que Tchouaméni ne soit pas là non plus en termes d'image, j'aurais trouvé ça quand même cool parce que là on a quand même dépassé l'entendement. Après derrière, Tchouaméni et Valverde peuvent revenir dans le club, mais au moins marquer le coup là-dessus.
Le problème, c'est que tu impactes les coéquipiers indirectement, Walid, en faisant ça.
Oui.
Enfin, tu impactes l'équipe.
Oui.
J'ai jamais été partisan de ce genre de sanctions, tu vois. Sanctions individuelles, mais c'est vrai que.
Mais
j'entends ce que tu veux dire.
T'as mis une droite à un mec ou t'as mis une balayette à un mec et tu joues le dimanche, etc. Ouais. Le mec, ça se trouve, il est à l'hôpital ou on y il fait de l'ITT, etc. Je trouve ça pas dingue. Ouais. Mais après, bon, bref, moi, je suis pas spécialiste en termes de management. Mais pour revenir sur ce que je disais, sur l'excitation du match, effectivement, il y a la semaine d'avant-match qui nous excite un petit peu parce que On a envie de voir comment vont réagir les joueurs. On va décrypter, en plus en Espagne, c'est des spécialistes, tout ce qui va être dit, fait sur le terrain. Et puis surtout, il y a aussi une image à garder en tant que club sur le terrain avec un classico qui, même s'il n'est pas hyper important sportivement, il est quand même symbolique parce que le Barça doit gagner ce titre-là dans ce match. Ils peuvent mettre un tarif ou ils peuvent mettre un gros score à un Real Madrid qui est très très malade. Et de l'autre côté, il y a aussi un enjeu avec ou sans Mbappé par rapport à ce qui s'est passé contre l'Espagnol Barcelone, où on peut voir une équipe du Real Madrid qui peut s'imposer ou qui peut faire un résultat sans Mbappé. Donc voilà, il y aura quand même des choses à décrypter, mais c'est vrai que c'est pas le classico le plus excitant, surtout sans Lamine Yamal et avec un Barça qui est promis à un sacre évident.
Maxime, par rapport à ce classique, c'est vrai que on s'est régalé parfois, évidemment, quand il y avait plus Messi et Ronaldo, mais là, t'es une équipe qui est très malade, t'as des absents majeurs qui sont pas là, et finalement, on parle du Real pour des mauvaises raisons, parle de Marseille pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire tout l'extra-sportif et les tensions exacerbées au sein du club.
Non, t'as tout résumé. Pour moi, il manque de saveur. C'est dommage qu'il arrive pas un peu plus tôt dans la saison, alors c'est dommage que le Real Madrid n'ait pas suivi un petit peu la dynamique de Barcelone. Finalement, moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est finalement la crise interne au Real Madrid. Ça fait parler un peu du Real Madrid. J'aurais préféré qu'on en parle sur le terrain. Ouais, non, je vais le regarder, bien évidemment, mais avec beaucoup moins de saveur. Voilà. Alors après, il y a des enjeux quand même, hein. Évidemment, si le Barcelone devait être sacré à domicile malgré tout, mais contre le Real Madrid, ça serait quand même quelque chose de spécial. Maintenant, je suis pas convaincu et je vois pas le Real vraiment embêter les Barcelonais. Je sais pas ce que t'en penses, Walid, là, au vu de leur saison et au vu de la situation dans laquelle ils sont.
Elle est barcelonaise. Après, un classico, ça reste un classico. On va utiliser tous les poncifs, mais sur la dynamique, même sans Yamal, ça gagne du côté du Barça.
T'as raison, Mbappé devrait être dans le groupe.
Ouais, il devrait être dans le groupe. Maintenant, est-ce qu'il va démarrer? Je suis pas sûr du tout, vu la dynamique et vu en plus les relations très fraîches avec Arbeloa, où on le rappelle, hein, mais Arbeloa, après l'Espagnol Barcelone, a expliqué que le leader d'équipe c'était Vinicius, qu'il fallait des joueurs qui mettent les mains dans le cambouis et il fallait arrêter d'avoir des joueurs en smoking. Il avait envoyé une balle perdue quand même à Kylian Mbappé, surtout qu'en plus après l'Espagnol Barcelone, il y a Bellingham qui a fait deux stories avec des photos avec Vinicius, avec des clins d'œil, avec plein de signes énigmatiques, plein d'ambiguïté. Donc je serais très surpris de voir Mbappé démarrer, surtout que la saison elle est terminée, car Arbeloa il sait très très bien que c'est fini pour lui à la fin de la saison.
Ouais, donc qu'il fasse des choix.
Voilà, qu'il fasse des choix. Bon, le problème c'est que c'est bien hypocrite de faire des choix quand c'est terminé. On aurait bien voulu le voir faire des choix contre le Bayern Munich quand il y a eu les retours de Bellingham et de Mbappé et que son équipe sans Bellingham et sans Mbappé ont battu City. Je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui d'envoyer sur Mbappé comme ça médiatiquement, mais bon. C'est comme ça. Ouais, il y aura quand même des choses à décrypter. Il y a quand même un intérêt par rapport à ça, parce que la saga Real Madrid va continuer jusqu'à la fin de saison et jusqu'à l'arrivée de Mourinho ou non au club.
Mourinho, effectivement, qui pourrait revenir au club, lui qui a déjà entraîné le club.
Pas convaincu par l'idée au passage.
Pas convaincu par l'idée, mais on a envie de voir ça.
Oui, oui, non.
Ah ouais, moi j'adore. Ah, ouais. J'adore l'idée.
Ah oui. Bon, pas convaincu par l'idée sportivement. Moi,
oui, mais non, mais moi j'aime tout. Ouais. L'idée. Ouais. Il va secouer tout le monde.
Bah, oui, mais alors qui va secouer en premier? Parce qu'on connaît Mourinho, on sait qu'il aime bien casser un peu les égos.
Ce con, Laurent Ginard, faut le secouer, bien fait.
Et c'est excellent, Laurent Ginard.
Exactement.
Boisson sous-côté.
En général, Mourinho, c'est plus vraiment très frais. Hein.
Ouais.
Hein non, alors là, je te laisserai pas dire
non,
ça.
Non, je te le dis, bah, sur récemment, quand même, que ce soit à Benfica ou ailleurs, enfin,
il a gagné à la Roma une Coupe d'Europe.
Oui, il a gagné aussi avec Porto il y a 20 ans.
Non. Moi, j'espère qu'il va revenir. Je trouve que ça va nous faire un coup de jeune. On va revenir dans les années 2000.
On va surtout avoir pas mal de punchlines. C'est ce qu'on cherche finalement aujourd'hui.
En tout cas, donc demain, on vous rappelle le Classico, ça sera à 21h, en même temps que nos matchs de Ligue 1. Vous allez plus regarder la Ligue 1 ou le Classico?
À ton avis? Vive la Ligue 1, tu sais que je suis pro Ligue 1.
Bonne question, parce que je travaille sur le Classico moi.
Ah bon?
Ouais.
Oh, shame on you.
Pourquoi?
Bah parce que tu devrais regarder la Ligue 1, c'est ton train quotidien.
Il a 4 écrans.
Tu auras 8 télé, 7 Ligue 1 et une.
On respecte notre travail, on va regarder le Real Barça et puis on aura un multiplex à côté pour voir les buts et puis on se refera un match ou deux dans la journée de lundi.
Oh là là, mais quel professionnel! Magnifique!
Magnifique. Vu le nombre de matchs qu'on a fait en Ligue 1 cette saison, ça va. Je pense qu'on va rien apprendre demain de Marseille.
Metz-Lorient, par exemple, tu vas rien apprendre.
Je regarderai pour toi.
Ça
le bagage cette saison, je pense qu'on l'a eu.
Merci messieurs, merci à Théo et à Samy qui étaient aux manettes de l'émission. On vous rappelle donc que Le Mans retrouve la Ligue 1 16 ans après l'avoir quitté, après cette victoire 2-0 sur la pelouse de Bastia du côté donc de Saint-Etienne. Il faudra passer par les barrages, ça sera vendredi pour les Stéphanois qui recevront à la maison soit Rodez, soit le Red Star. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'after foot.